Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse, au chapitre 24. Comme vous le savez, on est en train de faire une étude systématique du livre de la Genèse. On est rendu à notre, je pense, 44e leçon. Et on est rendu seulement au chapitre 24. Alors, on va en avoir au moins pour 100 leçons, facilement. C'est un livre très intéressant, la Genèse. Alors, on va aller dans Genèse 24, les versets 29 à 67. Alors, si vous voulez vous lever, on va lire la parole. Genèse, chapitre 24, versets 29 à 67. Autrement dit, c'est à partir du verset 29, on lit tout le reste du chapitre. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source et il dit, « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger. Mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir ce que j'ai à dire. »« Parle, » dit Laban. Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. » Et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. » J'ai dit à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? » Et il m'a répondu, « L'Éternel devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, « Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, et que cette jeune fille soit aussi la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, « Donne-moi à boire, je te prie. » Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, « Bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit, « De qui es-tu la fille? » Elle a répondu, « Je suis la fille de Bethuel, fils de Nakhor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. » Laban et Bethuel répondirent et dirent, « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Lorsque le Seigneur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste encore avec nous quelque temps, encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Lakhaï-Roï et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici, les chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Alors, je vais vous asseoir. Alors, tout simplement, le titre que j'ai donné au sermon de ce matin, c'est le choix divin de l'épouse d'Isaac. Autrement dit, on voit la main de Dieu dans le déroulement du choix de la femme du fils d'Abraham, Isaac. Alors, on va voir que c'est un choix que Dieu a confirmé. Et qu'on va voir que les circonstances aussi de rencontre avec la famille, ça démontrait que oui, même eux reconnaissaient que la main de Dieu était là-dedans, reconnaissaient la volonté de Dieu dans le fait que Sarah soit donnée, Rebecca. Alors, le chapitre 24, c'est le livre le plus long, le chapitre le plus long du livre de la Genèse. C'est un très long chapitre. Il traite d'un seul sujet, dans le fond. C'est la recherche d'une épouse pour Isaac. Et on sait qu'Isaac est un important maillon pour la venue future du Messie. Abraham, Isaac, Jacob, etc., jusqu'à ce que l'arrivée de Jésus arrive. Alors, une chose qu'on voit là-dedans, c'est que Isaac, il est encore célibataire. Puis il y a 40 ans, d'après l'étude du texte, l'étude des aspects du temps. Et sa mère est décédée et son père, bien entendu, est âgé. Alors, en bon père de famille, on sait qu'Abraham se soucie de l'avenir de son fils. Il est conscient que son fils n'est pas n'importe quel fils. C'est un des maillons de la lignée messianique. Alors, pour lui, c'était important que son fils ne marie pas une païenne. Alors, il avait confié la mission à son serviteur d'aller chercher quelqu'un qui serait... Ce fils-là faisait partie de la promesse de Dieu, d'envoyer le Messie éventuellement par une lignée. Et il savait que ça passerait par lui et par son fils. Alors, le mariage d'Isaac doit se réaliser, mais selon les plans divin. Il ne doit pas marier n'importe qui. C'est quand même bizarre de penser qu'un gars de 40 ans, il attend qu'un serviteur aille chercher une femme pour lui, puis quand elle revient, aussitôt qu'elle est arrivée, il rentre dans la tente. Pourquoi? Puis il dit qu'il l'aimait, il l'a aimé tout de suite. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Et lui le savait, et elle le savait. Et la famille le savait, le serviteur le savait, Abraham le savait. Tout le monde reconnaissait la main de Dieu à l'intérieur de ce choix divin-là de l'épouse d'Isaac. Le serviteur d'Abraham avait reçu un signe de Dieu. Tout à l'heure, on l'a lu un petit peu. Là, il avait dit, la femme, celle-là qui baissera sa cruche, à qui je demanderai de l'eau. Et il avait reçu un signe de Dieu. Il était sûr que Dieu avait répondu en lui montrant que ce serait cette femme-là. Mais cependant, la transaction, si on peut appeler ça une transaction, n'était pas encore complète tant qu'il n'avait pas été voir la famille pour s'assurer, parce qu'à cette époque-là, il fallait l'approbation du père, de l'approbation de la famille pour qu'il la laisse partir. Alors, bien sûr, il ne se fie pas aveuglément au premier signe. Il se dit, très certainement lui-même, je vais aller voir la famille et si le Dieu veut démontrer que ça vient de lui, il va faire en sorte que les circonstances vont me montrer que ça vient du Seigneur. Alors, il doit avoir un accord. Alors, quand on lit un petit peu plus tard dans le verset 50, on a vu que Bethuel et Laban, donc Bethuel c'est à son père et Laban c'est à son frère, à quelque part, eux-mêmes ont reconnu dans le verset 50, Laban et Bethuel répondirent, ils dirent, « C'est de l'Éternel que la chose vient. » Ils reconnaissent par les signes, par tout ce qui s'est passé, par lui ce qu'il leur a raconté, les circonstances, comment il avait rencontré Rebecca, et les signes qu'il avait demandé à Dieu, ils reconnaissent la main de Dieu là-dedans. Et une qui a eu une grande foi à l'intérieur de ça, c'est Rebecca. Elle rencontre un gars, puis il dit, bon, mon maître m'envoie chercher une femme, puis je pense que c'est toi. Puis elle a dit, ils ont demandé, OK, on va lui demander son opinion, tu veux-tu y aller? J'irai. On voit la foi. Elle avait la foi que Dieu ne lui amènerait pas quelqu'un qui serait de la famille de Dieu, qui serait... Alors, c'est intéressant de voir qu'elle aussi, elle croit que c'est la volonté de Dieu qu'elle aille avec cet homme rencontrer un... Dans le fond, c'est un parfait inconnu. C'est assez spécial. Mais est-ce que nous, si Dieu nous disait aujourd'hui, quand quelqu'un veut se marier, aujourd'hui, les gens sont rapides pour aller chercher des moyens autres que la consultation divine. Des fois, il faut consulter Dieu, surtout dans des choses importantes comme le mariage, où on peut se laisser plus dominer par nos instincts ou par notre désir de se marier sans tenir compte de ce que Dieu veut. Et quand tu fais ça, des fois, ben, tu risques de te mettre les deux pieds dans un plat. Et quelque part, on se doit de s'habituer dans toutes nos grandes décisions, et même nos petites, de toujours implorer Dieu de nous donner son éclairage, sa lumière, sa direction. Alors, le choix divin est confirmé à partir du verset 29 jusqu'au verset 49, par plusieurs choses. Par l'hospitalité. Parce que si la famille aurait été un petit peu... Oh ben là, toi, là, on ne te connaît pas, là, on va leur faire une enquête. Là. Ils reconnaissent que, d'après ce que lui leur raconte, qu'ils voient la main de Dieu là-dedans. Alors, on voit qu'il y a une chaleur, la chaleur de la réception par la famille de Rebecca dans le verset 29 à 31. Or, Rebecca avait un frère nommé Laban, donc c'était son frère, et Laban courut dehors vers cet homme près de la source. Aussitôt qu'il eut vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et qu'il eut entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, qui disait, « Cet homme m'a parlé ainsi, et il vint vers cet homme, et voici, il se tenait près des chameaux vers la source. » Et il dit, « Entre, béni de l'Éternel, pourquoi te tiens-tu dehors quand j'ai préparé la maison et un lieu pour les chameaux? » Alors, on voit qu'il y a une chaleur dans la réception. Quand on reçoit quelqu'un, il y a une leçon ici pour nous aussi, dans le sens de l'hospitalité, ça se manifeste toujours dans le concret. Vous remarquez ça quand on est invité à quelque part, ça paraît quand c'est chaleureux, puis ça paraît quand c'est froid aussi. Quand c'est chaleureux, on se sent beaucoup plus à l'aise. Alors on voit là-dedans que lui, non seulement il est à l'aise, mais il court au-devant de lui pour lui dire « Qu'est-ce que tu fais dehors? Rentre, t'es le bienvenu. » On sait que ces choses-là viennent de Dieu. Mais il y avait une petite remarque qui est dite dans le verset 2 qui aurait pu allumer la convoitise de Laban. Parce que quand on connaît l'histoire de Laban un petit peu plus tard dans le livre de la Genèse, on sait que c'était un gars qui était assez calculateur, comme on pourrait dire. Alors quand il a vu les bracelets, oups, Ah, ça peut être une affaire intéressante, ça. Alors, on voit que même dans le côté qu'on pourrait dire appréciable de son hospitalité, on voit que dans le cœur humain, c'est rare que les choses sont pures. Hein. Il y a toujours un petit peu du mélange des deux. Alors, il lui dit quand même, entre béni de l'Éternel, ça veut dire qu'il reconnaissait que le serviteur avait été béni par l'Éternel lui-même. Alors, la chaleur de la réception et aussi la chaleur de l'accueil, quand on voit les gestes concrets que la famille a fait pour démontrer au serviteur que réellement il était chaleureux dans leur accueil, dans le verset 32 et 33, l'homme entra donc dans la maison et Laban déharnacha les chameaux, donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver ses pieds et les pieds des gens qui étaient avec lui. C'est drôle, pareil, hein? Se laver les pieds. À cette époque-là, tu te promenais avec des sandales. Souvent, il y avait de la chaleur, la chaleur du sable. Alors, quand tu avais fait un bout, là, t'avais les... quand tu te mettais les deux pieds dans l'eau, ça devait être... Ah, ça fait du bien, ça. Alors, c'était un signe d'hospitalité à cette époque-là que quand quelqu'un arrivait d'un voyage, non seulement de lui donner à ses animaux et à lui-même quelque chose à manger, alors on... Ça s'exprime, leur chaleur, par plusieurs gestes concrets. Le repos et la nourriture donnée aux bêtes, et aussi au serviteur lui-même et à ceux qui l'accompagnent pour sa mission. Maintenant, dans les versets 33b aller jusqu'à 48, on voit l'harmonie de son voyage. Il y a une résolution dans son esprit. On voit que, dans le fond, la famille, oui, ont été d'accord, mais oui, ont voulu un petit peu mettre prolonger, mais il faudrait que la fille reste encore 10 jours. Et là, lui, il voyait ça comme étant quelque chose qui empêchait la volonté de Dieu de s'exécuter. Alors, il était vraiment résolu dans son esprit de dire, je ne suis pas ici pour profiter des repas et de l'accueil généreux des gens, je suis ici pour amener cette femme-là à mon maître. Alors, tout de suite, il a voulu donner à... Et dans le verset 33b, ça dit, « Et il dit, je ne mangerai pas jusqu'à ce que j'ai dit mon affaire. » Et Laban dit, « Parle. » Alors pour lui, il fallait tout de suite qu'il dise, avant qu'on y aille trop loin, avant qu'on s'éternise avec les civilités, qu'on pourrait dire, il faut que je te rappelle qu'il faut que j'aille apporter cette femme-là. Alors il ne veut pas se laisser distraire de sa mission. Et... je pense qu'il y a une leçon pour nous aussi, pour nous montrer que quand Dieu nous emmène à faire quelque chose pour lui, on ne doit pas se laisser distraire. Puis Dieu sait s'il y en a des distractions autour de nous. Dieu nous commande d'évangéliser. Pourtant, on est rempli de distractions tout autour. Et souvent, les distractions réussissent à nous éloigner de la mission que Dieu nous confie. Alors, on voit aussi... ici, qu'il y a de l'ingéniosité dans le fait qu'il rappelle la famille à certaines réalités. Verset 34 à 36. Et il lui dit, je suis esclave d'Abraham. C'est un serviteur. À cette époque-là, les serviteurs, c'était des esclaves, littéralement. L'Éternel a beaucoup béni mon Seigneur, qui est devenu grand. Il lui a donné du menu et du gros bétail, de l'argent et de l'or, des esclaves, hommes et femmes, des chameaux et des ânes. Alors, imaginez Laban, s'il était un petit peu calculateur. Oh, il est riche, son maître. C'est intéressant comme... Alors, et Sarah, la femme de mon Seigneur, après être devenue vieille, a enfanté un Seigneur, à mon Seigneur un fils, auquel il a donné tout ce qui est à lui. Alors, c'était un fils, il était le seul fils à ce moment-là. Alors, il lui rappelle aussi que... l'ingéniosité qu'il y avait en arrière de rappeler sa mission. Et mon Seigneur m'a fait jurer en disant... Il voulait y rappeler le côté solennel de l'affaire. Ne nous éternisons pas trop dans les choses agréables de manger et de boire ensemble. Je vous rappelle que je suis venu ici avec une mission précise. Et mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas de fille pour mon fils d'entre les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras à la maison de mon père et vers ma famille et tu prendras une femme pour mon fils. Et là, il lui rappelle aussi que le serviteur lui avait, pas le serviteur, mais Abraham lui avait dit, ouais, mais tu dis un coup qu'elle ne veut pas venir, fais quoi, moi, là? je vais-tu aller dans le pays où ce que tu m'as dit de ne pas aller? » Il a dit non. Alors, il dit, et j'ai dit à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne viendrait-elle pas après moi. » Alors, il m'a dit, « L'Éternel, avant lequel je marche, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de ma famille à la maison de mon père. Tu seras quitte envers moi de cette imprécation alors que tu seras allé vers ma famille, et s'il ne te la donne pas, tu seras quitte envers moi de cette imprécation. » Alors, c'était pour lui, il voyait le fait que si Dieu faisait réussir son voyage, il n'avait pas besoin d'aller chercher plus loin. S'il refuse, il n'était plus sous imprécation. Alors, il voit aussi que la direction providentielle de Dieu dans tout ce qui s'est déroulé dans cette recherche-là est évidente. Et là, on voit qu'il a prié parce qu'il dit, « Je suis arrivé aujourd'hui à la source. » Et j'ai dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le chemin où je marche, voici, je vais me tenir auprès de la source d'eau. Il arrive que la jeune fille qui sortira pour puiser et à laquelle je dirai, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de la cruche. » Qui me dira, « Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, soit la femme que l'Éternel destine. » Alors, il demandait des signes précis. Et Dieu lui a donné des signes très précis. Voici, là, on voit qu'il avait prié du verset 42 à 44, et on voit la réponse de Dieu. Il est très intéressant de remarquer les mots qui sont utilisés pour parler de la réponse de Dieu. Avant que j'eusse achevé de parler en mon cœur. Ça nous dit-tu quelque chose sur Dieu, ça? On prie, on n'a même pas fini d'exprimer ce qu'on a demandé à Dieu, puis Dieu, il peut répondre avant même que tu aies terminé. Il y a quelque chose de fantastique à l'intérieur de ça. Voici sortir Rebecca, sa cruche sur l'épaule, alors qu'on voit qu'elle a exactement donné au serviteur les signes que lui avait demandé. Et le verset 48 nous dit quelque chose d'important aussi par rapport à quand Dieu répond à notre prière, quelle qu'elle soit. Et je me suis incliné, un signe d'adoration. Et je me suis prosterné devant l'Éternel. Et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit dans un chemin de vérité pour prendre la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Alors, on voit que quand c'est clair que ça vient de Dieu, ça t'amène à quoi? L'inclinaison, l'adoration, la bénédiction. Tu reconnais que tout vient de lui, c'est lui. Tu reconnais la direction dans tout cela. Isaïe 65, verset 24, un verset intéressant qui nous rappelle cette vérité-là que Dieu, des fois, répond avant même qu'on ait terminé notre prière. Voyez-vous, Isaïe 65, 24, ça dit « Et il arrivera qu'avant qu'il crie, j'aurai répondu. Ils parleront encore et j'aurai entendu. » Autrement dit, tu es encore en train d'exprimer ta prière, puis Dieu déjà l'a entendu et Dieu déjà t'amène à reconnaître qu'il l'a exécuté, qu'il t'a répondu. Alors, le passage nous enseigne que lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, les réponses à nos prières sont claires. Nos réponses à nos prières sont précises et sont manifestes, ça se voit. Manifeste, ça veut dire quelque chose qui est visible, observable. Alors, le serviteur a observé les réponses et a exprimé sa joie et sa reconnaissance par l'action de grâce, la louange et l'adoration. L'humanité de sa requête, dans le verset 49, là, il dit quelque chose, il veut rappeler. Il dit, « Maintenant, si vous voulez user de grâce et de vérité envers mon Seigneur, « Déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à ma gauche. » Autrement dit, tous les signes que Dieu est présent dans le choix de la femme sont là. Mais si vous me dites que vous ne voulez pas me l'accorder, je m'en vais. C'est à peu près ça que ça disait. Alors, on va regarder le deuxième point, le choix divin concerté, verset 50 à 60, pour montrer que même après que la direction de Dieu avait été claire dans le choix par toutes sortes de petits événements, il va être clair encore par le fait que toute la famille s'est accordée. Concertée, ça dit, c'est un concert. Quand on fait un concert de musique, il y a des gens qui jouent de différents instruments. S'ils ne s'accordent pas, on ne fera pas un beau morceau avec ça. Ah ben ça, c'est exactement la même chose. Il fallait que la famille, que l'époux, la future épouse collabore, et c'est ce qui est arrivé. Alors, on voit la concertation dans le verset 50 à 53, dans le fait que la vision de la main providentielle de Dieu dans les versets 50 et 51. Laban et Bethuel répondirent et dirent, « La chose procède de l'Éternel, nous ne pouvons te parler ni en bien ni en mal. Voici Rebecca devant toi, prends-la et va-t'en, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel te l'a prononcé. » Alors, il voit la main providentielle, parce que, la providentielle de Dieu, parce qu'il dit « La chose procède de l'Éternel. » Donc, même après avoir, ça être fait raconter par le serviteur ce qui s'était passé, ils reconnaissent le père et le frère que ça vient de Dieu. Verset 52, l'adoration. « Et il arriva, lorsque l'esclave d'Abraham entendit leurs paroles, qu'il se prosterna en terre devant l'Éternel. » Voyez-vous encore une autre... Il y avait eu la première adoration, il y a une deuxième adoration ici, parce qu'il voit que les parents reconnaissent la main de Dieu dans tout l'événement. Il dit, et il arriva lorsque l'esclave d'Abraham entendit leurs paroles, qu'il se prosterna en terre. Là, c'est pas juste une adoration des lèvres. Se prosterner en terre, ça veut dire vraiment, en ce temps-là, l'adoration en s'ajoutant la face contre terre. Alors, il voit vraiment la main de Dieu à l'intérieur de ça. Et on a l'action de grâce dans le verset 53. Alors, bien entendu, il est content de voir que son voyage était un succès. Et l'esclave tira des objets d'argent et des objets d'or. Donc, il avait amené avec ses chameaux des démonstrations que c'était vrai, que son maître était un homme riche. Donc là, ils ont sorti des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, et les donna à Rebecca. Il donna des choses précieuses à son frère et à sa mère. Alors, on a dit, toute la famille a profité des largesses d'Abraham. Si tu trouves une épouse pour mon fils, voici ce que tu leur donneras. Alors, il n'était pas séraphin, comme on dit. Alors, ils ont aussi utilisé des bonnes procédures pour en arriver à s'entendre. Alors, on voit les civilités. Les civilités, c'est tout simplement dire, c'est de la politesse quand on vit des choses. Autrement dit, on dit souvent des gens, ils savent vivre ou ils ne savent pas vivre. Dans le cas ici, on voit qu'ils savaient vivre parce qu'ils mangèrent et burent. Et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Ils se levèrent le lendemain et le serviteur dit, « Renvoyez-moi à mon Seigneur et son frère et sa mère lui dire que la jeune fille demeure avec nous encore quelques jours, une dizaine, puis elle s'en ira. » Il voulait qu'elle reste encore 10 jours. Alors, les deux parties expriment ce qui les préoccupe. La famille voulait qu'il reste encore 10 jours, puis lui, le serviteur, il voulait qu'elle s'en vienne tout de suite. Mais il y a de la politesse dans l'expression de leurs deux volontés. Dans le verset 56, on voit aussi l'expression de courtoisie. Et il leur dit, « Ne me retardez point, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Renvoyez-moi que je m'en aille à mon Seigneur. » L'autrement dit, l'idée, c'est que la fête ne se prolonge pas trop. Que les circonstances ne me détournent pas du but principal pour lequel je suis venu ici. Et c'est intéressant, de le verset 57, de voir que la famille aurait aimé qu'elle reste encore 10 jours, mais ils ont dit une chose. Qu'est-ce que vous en pensez si on demanderait l'opinion de Rebecca? C'est important un petit peu. Alors, il dit, verset 57, « Alors, ils dirent, appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Et là, il y a un consensus, verset 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme? » Et elle répondit, c'est bizarre, hein? Elle ne connaissait pas. Elle n'a pas dit, « Ouais, mais là, il faudrait que tu me donnes un petit peu plus de détails. Es-tu beau? Es-tu pas beau? » elle a dit, « Elle sait que ça vient de Dieu et c'est une expression de foi. J'irai. » Elle y va à l'aveuglette. Souvent, la foi, c'est de plonger sans qu'on n'ait pas sûr de ce qui va arriver. Hein. Alors, le plan, alors ils laissèrent aller Rebecca, leur sœur et sa nourrice, et le serviteur d'Abraham et ses gens. Alors, à l'époque, c'était ça. Rebecca, elle avait une nourrice. Et à cette époque-là, ça devenait des servantes. Et ça devenait des confidentes aussi. Ça devenait des personnes, ça devenait des véritables amis. Alors, ils la laissent partir avec sa confidente, sa nourrice, pour qu'elle le suive jusqu'à la fin du voyage. Et le verset 60, on profite plusieurs sermons juste sur le verset 60. Et ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, sois la mère de milliers de myriades. » Ça veut dire quoi, milliers de myriades? Des millions. « Sois la mère de millions de personnes. Et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Et si on met ça en relation avec les promesses que Dieu avait faites à Abraham, ta postérité va être aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que le sable de la mer. Quand on retourne un petit peu dans les chapitres précédents, des millions de millions, des milliers de myriades, c'est des millions. Alors, quelque part, ils lui disent prophétiquement que sa descendance va être aussi nombreuse qu'elle a été promise à Abraham. Et dans le verset 61 à 67, on a le choix divin qui est concrétisé. Enfin, tous les éléments sont en place. Dieu a montré le chemin, la direction, a donné des signes. La famille a accepté. La principale intéressée, elle a accepté aussi. Alors là, c'est vraiment concrétisé. Il ne reste plus qu'à faire les bagages et à s'en aller vers l'époux. Alors, c'est une concrétisation qui se fait dans le verset 101-103. Et Rebecca et ses servantes se levèrent, montèrent sur le chameau, suivirent cet homme. Le serviteur prit donc Rebecca et s'en alla. Là, on commence à nous présenter Isaac. Alors, le chemin entre les deux, je ne sais pas combien il y avait de chemin, c'était un chemin assez long. Alors, Isaac revenait du puits. Je recommence au verset 101. Rebecca et ses servantes se levèrent et montèrent sur le chameau, suivirent l'homme. Le serviteur prit donc Rebecca et s'en alla. Or, Isaac revenait du puits du vivant qui me voit. Le puits du vivant qui me voit, ça parle beaucoup dans le sens que c'était un homme spirituel, qu'en attendant que tout le projet se concrétise, il était dans les voies divines par la prière, près du puits du vivant qui me voit, et il demeurait au pays du Midi. Et on voit que c'est un homme de méditation, et Isaac était sorti pour méditer dans les champs vers le soir. Et levant les yeux, il regarda, et voici que les chameaux arrivaient. Mais ça me met à la place du gars, il ne sait pas c'est qui sa femme. Puis là, il dit, « Oh, ah, ça en vient. On a hâte de voir que ça a l'air, cette affaire-là. » Mais tu sais, il faut essayer de se placer dans la peau des gens de l'époque. Mais je pense que la principale leçon qui est de ce chapitre-là, c'est de montrer que quand on sait que les choses viennent de Dieu, on peut lui faire entièrement et absolument confiance. On sait que Dieu ne nous mettra pas dans des situations où on va s'éloigner de lui. Alors, il anticipe le voyage, il anticipe que le fait qu'elle arrive, mais il le fait par la méditation et la prière. Près du puits du vivant qui me voit, c'est une implication que... Et la méditation est en... Alors, c'est un homme de méditation, Isaac. Alors, quand on regarde les versets 104 à 106, on voit qu'il y a une observation qui se fait des deux côtés. Rebecca leva aussi les yeux. Lui, il l'a vu, puis elle a regardé. Hop, il y a quelque chose qui se passe au loin, là. Et vit Isaac et se jeta à bas du chameau. Car elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs au-devant de nous? » Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Elle prit son voile et s'en couvrit. C'était à l'époque, les femmes se couvraient devant quelqu'un qui ne connaissait pas. Et c'était, même si elle savait que c'était son futur mari, c'était comme ça. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Mais pour Isaac aussi, le fait de se faire raconter, j'ai demandé à Dieu, j'ai prié Dieu, j'ai demandé tel signe, il les a eus. Après ça, je suis arrivé dans la famille, il a eu aussi, il a tout raconté, son voyage. Alors pour Isaac, c'était une confirmation que toute l'affaire venait littéralement de Dieu. On observe plusieurs choses dans ces versets-là. L'humilité de Rebecca. Et le serviteur fidèle qui veut faire part du miraculeux et de la direction divine dans son voyage. Alors, Rebecca est humble, puis pour le serviteur, lui, il se rend compte qu'il y a quelque chose de miraculeux dans les circonstances providentielles que Dieu a permis que ça se concrétise, toute cette affaire-là. Alors Isaac avait ainsi la confirmation que le choix de son épouse avait été fait par l'Éternel lui-même. Imaginez-vous, quand on est marié, si on a la certitude que c'est l'Éternel lui-même qui a choisi ta femme, je suis certain que tu ne te trompes pas. Si on s'est trompé dans nos vies, ce n'est pas Dieu qui est le responsable, c'est nous. Alors, quel cadeau, quelle bénédiction pour un homme de savoir que l'épouse que Dieu t'a donnée a été une décision personnelle de l'Éternel. On ne peut pas avoir de plus grand cadeau que ça. Parce que quand on le cherche nous-mêmes, par nos propres moyens, on risque de faire des erreurs. Et le dernier point, dans le verset 67, on voit que c'est une concrétisation dans l'amour, qui se termine dans l'amour, et dans la consolation. Il y a deux aspects dans ce verset-là. Parce que ça dit, « Or, Isaac mena Rebecca dans la tente de sa mère. » Si vous regardez dans le verset, « Il prit Rebecca, et elle fut sa femme, et il l'aima, et Isaac se consola après la mort de sa mère. » Il l'a emmené dans la tente de sa mère. Deux fois le mot « mère ». Et pour lui, la mort de sa mère avait dû être quelque chose qui était extrêmement douloureux. Et là, il voit que Dieu pourvoit à une consolation par une épouse, et ça a pour effet qu'il l'aime. Et à cette époque-là, c'était pas... Et bon, okay, on va sortir ensemble pour 6 mois, on va voir comment ça va, et si ça correspond à ce que je veux, on se mariera. Le mariage s'est fait immédiatement. Pour une bonne raison, c'est parce qu'ils étaient sûrs tous les deux que ça venait de Dieu. Et il n'y avait aucun doute dans leur esprit. Alors, il n'y a pas besoin de dire, « Ben là, je vais attendre de te connaître, je ne sais pas quelle sorte de caractère que toi, moi, là, puis je ne sais pas que, si tu sais faire la cuisine ou des choses semblables. » Alors, c'est intéressant de voir que deux choses se terminent dans le verset 67. On a vraiment une épouse qui lui est donnée et qui correspond à ce que Dieu voulait, qui n'est pas une païenne. Il n'a pas marié une des lignées qui amènerait éventuellement le Messie, n'est pas marié avec une païenne. On a Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Au jour de la prospérité, sois joyeux. Et au jour de l'adversité, prends-y garde. Aussi, Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne trouve rien de ce qui sera après lui. Qu'est-ce que le verset nous enseigne? Le verset nous enseigne que c'est Dieu qui tricote nos circonstances. On a de la prospérité, puis on a de l'adversité. Puis il dit qu'il met l'un en face de l'autre. On ne peut pas prévoir qu'est-ce qui va arriver après. On peut traverser une période de grande prospérité, de bonheur, de joie, tout va bien. Puis d'un coup, paf! On dirait que le bateau change de direction, et là, tu deviens dans une période d'adversité. Alors le Seigneur, il contrôle nos circonstances, et le but du contrôle de nos circonstances, c'est toujours de nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Alors j'ai trois applications. Quand on parle d'application, c'est quelque chose, après avoir entendu un texte comme ça, ça ne devrait pas nous laisser insensibles, ça ne devrait pas nous laisser inchangés non plus. Il devrait y avoir quelque chose dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme qui change. Chaque sermon devrait nous améliorer. S'il ne nous améliore pas, c'est soit que le pasteur a fait une bien mauvaise job, ou soit qu'on n'était pas à l'écoute vraiment. C'est rare que c'est tout un ou tout l'autre. Souvent, c'est les deux. Si le pasteur a bien fait son travail, et si tu as été... Il faut se préparer. Quand on va à un culte, là, une des choses qu'on ne fait pas assez souvent, c'est de se préparer là, durant la semaine pour demander à Dieu d'être dans un état d'esprit réceptif à sa parole. Puis ça, on devrait le faire à tous les jours. Si on dit à Dieu, quand je vais aller au culte, permets que ce que tu vas me dire, parce qu'il se sert d'un homme pour vous parler, et le but est de changer quelque chose en vous. Alors, être réceptif à sa parole, ça c'est une prière qu'on se doit de faire le plus souvent qu'on peut. Même je dis, on devrait le faire à tous les jours. Préparer notre réunion du mercredi, puis préparer notre réunion du dimanche. Alors, on avait vu dans le passage qu'on a tous des décisions importantes à prendre dans nos vies. Un changement de travail, le mariage, toutes sortes de choses comme ça. Apprenons à ne prendre aucune décision sans consulter le Seigneur. Prenons aussi aucune décision sans attendre patiemment sa direction et aussi attendre sa réponse et attendre sa bénédiction. Voyez-vous, Jérémie, chapitre 17, verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est la confiance. » Deuxième application, donc première application, consultons-le dans toutes nos décisions. Deuxième, reconnaissons l'Éternel dans toutes nos voies et sachons observer sa réponse dans les circonstances providentielles. Les circonstances providentielles, c'est les choses que Dieu permet qui arrivent autour de nous. Et on faut voir la main de Dieu, faut s'habituer à voir la main de Dieu dans nos circonstances. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton discernement. Dans toutes tes voies, connais-le et lui-même, il dressera tes sentiers. » Et la troisième, « Méditons sur le fait que l'Église est l'épouse du Christ et qu'elle est aimée au-delà de tout ce que nous sommes capables de concevoir. » Alors ici, on a l'image d'Isaac qui trouve sa femme, mais on est l'épouse du Christ. Et si lui a aimé sa femme, combien plus? L'amour de Christ, là, comme ça le dit dans Éphésiens, ça dépasse toute capacité de compréhension. Même quand on a atteint notre plus haute conception de l'amour de Christ envers nous, ça dépasse infiniment, un gros mot ça, infiniment, infiniment. Il nous aime tellement qu'on n'a pas aucune idée jusqu'à quel point ça va loin dans l'amour de Christ. Alors, ça dépasse notre capacité de concevoir. L'apôtre Paul voit le mariage comme un type de l'union entre Christ et son épouse. On est l'épouse de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, on termine là-dessus. Paul dit, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. » Que le Seigneur soit béni pour sa sage direction providentielle dans nos vies. Amen.